Le texte en question se trouve dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 16. Et on va lire les quatre premiers versets. 1 Corinthiens 16, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites-vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Quand je serai là, j'enverrai avec des lettres ce que vous aurez choisi pour porter vos dons à Jérusalem, et s'il vaut la peine que j'y aille moi-même, si la chose vaut la peine que j'y aille moi-même, ils feront aussi le voyage avec moi. On va prier. Seigneur, c'est un sujet que peut-être on aborde parfois trop dans certaines églises, et dans d'autres églises pas du tout, à cause de certaines craintes. Mais on sait, Seigneur, que tu as permis que des personnes inspirées par ton esprit, de manière spéciale, parlent à plusieurs reprises de la collecte et que c'est un sujet que nous n'avons pas à éviter, que nous pouvons aborder ensemble. Et nous voudrions être enseignés par toi, Seigneur, aujourd'hui, alors que nous lisons ce texte, que ce passage puisse parler directement à nos cœurs et diriger nos pratiques en la matière et nous conduire aussi, Seigneur, à une saine compréhension de ce que tu veux que nous accomplissions en termes de gestion de nos finances, gestion de notre argent, Seigneur. Père, je te prie pour qu'on puisse encore une fois venir devant toi avec cette attitude de cœur, d'humilité, qu'on ait nos esprits et nos cœurs disposés à recevoir ta parole, qu'on ait à cœur de la mettre en pratique. Bénis ta parole, Seigneur, parce que c'est elle qui transforme les cœurs, c'est elle qui nous a façonnés, attirés à toi. Et on prie encore aujourd'hui que ça soit une occasion pour nous de te regarder et de voir ce que tu prescris. Amen. Alors, clairement, c'est un message de fin d'année et je tiens d'emblée à être extrêmement clair sur le fait que ce message, cette prédication, n'est absolument pas motivée par une situation particulière, une situation précise de notre Église. C'est un sujet, je vous le disais, que je veux aborder depuis longtemps et c'est l'occasion aujourd'hui, alors qu'on est entre deux séries de sermons, de le faire. Et je suis d'autant plus à l'aise d'en parler aujourd'hui avec vous. Je vais vous dire pourquoi, parce que la générosité de notre Église n'est pas à démontrer. Alors certes, hein, je ne vais pas vous faire un topo, ce n'est pas le lieu de faire l'Assemblée Générale maintenant. Et puis, on est encore en transition, on espère avec Christian que l'indépendance de l'Église devrait être actée. On espère début de l'année, là ça serait génial. On attend les derniers éléments du SECOC, mais c'est pour tout bientôt là. On est dans les starting blocks, on est prêt. Et malgré tout, on a quelques éléments, quelques indications de où on en est au niveau du budget. Et honnêtement, on est vraiment reconnaissant à l'Église de la Trinité, dont les membres individuellement donnent, soutiennent l'Église, et ça se voit dans la manière dont l'Église grandit au niveau des personnes, mais aussi au niveau de la manière dont elles s'investissent financièrement. Mais il faut quand même qu'on le note, notre situation personnelle en tant qu'Église, elle reste quand même, pas précaire, mais elle reste quand même en transition. On n'a toujours pas les moyens aujourd'hui de payer un salaire de pasteur, c'est-à-dire qu'on est toujours dépendant du soutien d'autres églises pour pouvoir payer un pasteur, pour pouvoir payer le bâtiment. Même si on commence à se rapprocher du but, vous voyez, clairement, on est encore dans une sorte de transition, on est dépendant de la générosité d'églises sœurs qui elles-mêmes ont leur propre collecte, qui elles-mêmes font preuve de générosité, non seulement en leur propre sein, mais aussi à l'extérieur. J'étais notamment en visite la semaine dernière dans une église au Texas qui nous soutient maintenant depuis plus de 2 ans, je crois, de manière assez conséquente et qui nous permet de pouvoir assurer cette présence réformée baptiste à Montréal. Donc ce que je suis en train de vous dire là, c'est que non seulement nos finances, elles reflètent la générosité des gens de l'église, mais on est également encouragé d'être les témoins de la grande générosité des autres. Donc c'est un schéma, j'ai envie de dire, positif. C'est sûr qu'on est en transition, mais c'est vraiment positif. Et donc, réellement, ce sermon s'inscrit non pas dans une espèce de tentative de correction d'une situation ici, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment une prédication de circonstances sur lesquelles je voulais absolument que nous nous arrêtions. Pourquoi ? Eh bien parce que l'argent, c'est un sujet qui est difficile à aborder. Oui, c'est un sujet qui est difficile à aborder, notamment pour des personnes comme les Québécois et les Français qui sortent d'un arrière-plan catholique où une forme d'idéal de pauvreté a été régulièrement appuyée et qui entraîne souvent que la réussite financière, la réussite tout court, mais souvent financière, est vue avec un œil mauvais. les anglophones, qui sont d'ailleurs davantage marqués par l'éthique protestante vis-à-vis des finances, sont plus libres vis-à-vis de cela, parce que l'éthique protestante implique que la bénédiction de Dieu puisse aussi s'exercer dans nos finances, dans les finances de notre Église, bien que tout dépende, n'est-ce pas, de la souveraineté de Dieu. Mais dans les deux cas, il peut y avoir des extrêmes. Il peut y avoir cette culture de la pauvreté qui peut conduire au mépris des préceptes bibliques qui nous indiquent, qui nous conduisent à vouloir bien mener notre vie. Et de l'autre, on peut très vite tomber dans une erreur grossière qui consiste à croire que la bénédiction divine se manifeste essentiellement, voire exclusivement, en termes de prospérité financière. C'est alors qu'on tombe dans l'évangile de prospérité. Dans tous les cas, que ce soit ce déni d'une bonne gestion, de la nécessité pour le chrétien de bien gérer sa vie, ou cette vision d'un Dieu qui nous bénirait presque exclusivement de manière matérielle, dans les deux cas, c'est une erreur doctrinale. Dans les deux cas, c'est une erreur morale. Et à vrai dire, à Corinthe, parler d'argent, ce n'était pas non plus une chose facile pour l'apôtre Paul. La situation à Corinthe était compliquée. Il y avait des clans qui s'étaient formés, probablement derrière des maîtres à penser, qui s'étaient divisés sur la base de considérations philosophiques. Il y avait une situation de débauche assez incroyable, au point qu'un homme avait pris la femme de son père et qui continuait à venir à l'église normale, comme si de rien n'était, et à professer la foi sans que personne ne lui dise rien, et que tout le monde trouve ça presque normal. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on disait que dans l'église de Corinthe, il y avait une débauche telle qu'elle ne se rencontrait même pas chez les païens. À Corinthe, vous aviez un temple dédié à Aphrodite, avec des prostituées sacrées. Et Paul leur dit, votre débauche est pire que là-bas. C'était une situation catastrophique que vous aviez à Corinthe. Et puis, il y avait des problèmes avec tout ce qui était viande sacrifiée aux idoles et tout le reste, qui montraient une certaine vision de la liberté assez erronée. Et d'ailleurs, beaucoup critiquaient la liberté que Paul avait d'être à plein temps pour l'évangile, critiquait son ministère, et Paul leur dit, écoutez, vous me critiquez, mais moi j'ai un sujet de gloire, c'est que je n'ai jamais pris votre argent. C'est ce qu'il leur dit au chapitre 9. Jamais je n'ai pris votre argent, et pourtant j'aurais le droit de prendre votre argent, mais je n'ai pas usé de ce droit afin de ne pas être un obstacle pour l'évangile. Donc vous voyez déjà que le rapport à l'argent pour l'apôtre Paul, dans ce contexte extrêmement polémique qu'il y avait à Corinthe, c'était compliqué. Et malgré cela, il organise une collecte à Corinthe, et il y va, vous allez le voir, avec beaucoup de précautions. Donc on a une situation difficile à Corinthe, qui reflète que le thème de l'argent était difficile à aborder pour Paul, mais il l'a abordé quand même. À combien plus forte raison, donc, devrions-nous nous aussi l'aborder, alors que franchement, globalement, ça se passe très très bien dans notre Église. Eh bien, ce que je vous propose, c'est que nous fassions quelques commentaires sur ces quatre premiers versets du chapitre 16 de l'Épître aux Corinthiens. Et la première leçon que nous pouvons retirer de ce texte, il y en a beaucoup, mais la première que nous pouvons retirer de ce texte, c'est que la collecte est un commandement. La collecte est un commandement. Et tout d'abord, c'est un commandement du Seigneur. Paul présente cette collecte, qui était une collecte particulière, on va y revenir, comme une prescription apostolique. Autrement dit, un ordre sur lequel on ne peut pas transiger, au même titre qu'un certain nombre d'instructions morales qu'il a données dans toute sa lettre. Donc il va connecter les deux ensemble, même si on est dans une section un peu plus pratique de la lettre, il maintient que c'est un commandement apostolique. À vrai dire, Paul, il avait donné quand même une série de directives extrêmement précises à l'église de Corinthe, qui était dysfonctionnelle. Il précise expressément, quand il donne un avis éclairé, sans avoir reçu de commandement du Seigneur, c'est ce qu'on voit au chapitre 7, mais ici, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Dieu, et c'est ça le principe, veut que l'église de Jésus-Christ puisse fonctionner au travers de la libéralité et de la générosité des membres de l'Église. C'est le principe sous-jacent, c'est ce que reflète ce commandement apostolique. Et regardez ce que dit Paul, la dernière phrase au verset 4, quand il dit « Si la chose vaut la peine, s'il vaut la peine que j'y aille moi-même, vos envoyés, vos délégués, ceux qui auront la charge de collecter et de transférer la collecte, eh bien, si ça vaut la peine, ils feront le voyage avec moi. » La plupart des commentateurs estiment que Paul s'attendait à avoir une collecte toute petite, riquiqui, avec des sommes de, probablement qui ne reflétaient pas la composition de l'église de Corinthe, la taille de l'église et des personnes qui étaient dedans. Et probablement, Paul disait tout simplement, les avertit d'avance, écoutez, si vous vous ridiculisez à faire une collecte qui ne reflète pas la composition de votre église, eh bien ça ne vaudra probablement pas la peine que j'y aille moi-même, je ne vais pas rajouter à votre ridicule le fait qu'un apôtre vienne transférer ces choses-là. Il ne s'attend pas, compte tenu des dysfonctions à Corinthe, à ce que la situation soit vraiment cristalline, à ce qu'elle soit si belle. Pour autant, il leur demande de s'organiser malgré tout. Donc c'est un commandement du Seigneur, mais Paul sait qu'à Corinthe c'est compliqué et il ne s'attend pas forcément à ce que ça se passe aussi bien que ça se passe par exemple ici à l'église de la Trinité. Ensuite, au-delà d'être un commandement du Seigneur, il faut comprendre que c'est un commandement qui est universel. Encore une fois, on est ici sur une collecte spécifique, on va y revenir. Mais pourtant, Paul n'a pas ciblé l'église de Corinthe, juste celle-ci là, en leur disant « Vous, Corinthe, vous allez donner de l'argent spécifiquement ». En réalité, il a donné la même consigne aux églises de Galatie. En fait, si vous regardez bien les voyages de l'apôtre Paul et le moment où il a écrit cette lettre à Corinthe, les églises de Galatie, c'est le sud de la Turquie, celle où il avait fondé plein d'églises, à Lystre, à Derbe, en Lycaonie, toutes ces régions-là, et c'était les églises où il avait le plus d'influence. Bref, toutes les églises où il avait eu des responsabilités ou qu'il avait implantées, il les mettait à contribution. Bref, c'est une collecte qui est universelle. Il ne cible pas une église en particulier. Et même si, encore une fois, il s'agit d'une collecte spéciale ici, le principe, c'est que ce commandement de Dieu s'applique également à nous, chrétiens du 21e siècle. Donc c'est un commandement du Seigneur, c'est un commandement qui n'est pas limité à quelques assemblées locales, c'est tout le monde qui est appelé à fonctionner selon ce principe. Et puis, si vous regardez bien ce que le verset 2 nous dit, eh bien c'est un commandement qui, au sein des églises, concerne absolument tout le monde. Verset 2, « Que chacun de vous », l'ordre ne dit pas « que chacun d'entre ceux qui sont les plus riches participe », ou que chacun donne tant de pourcents de son salaire, il n'y a aucun principe de cet ordre-là. L'ordre ne s'adresse pas à ceux qui sont les plus riches ou à d'autres qui auraient plus de capacité que les autres. L'idée, elle est claire. Tout le monde devrait contribuer. Une fois encore, c'est un principe. On ne fixe pas de montant, on ne fixe pas de pourcentage. Il n'y a pas de règle ici dans ce que Paul dit. Souvenez-vous de Jésus qui va louer cette veuve, qui va mettre simplement 2 pièces de bronze dans le tronc et qui va même dire « cette femme a mis de sa subsistance ». Il va louer le caractère et le cœur de cette femme, mais il ne nous donne pas une règle ici. D'ailleurs, on va le voir un peu plus loin, Paul ne nous demande pas de nous dépouiller et de nous mettre en difficulté financière pour soutenir l'Église. Ça n'a jamais été le but de la collecte. Mais on voit qu'au travers de cette veuve et de sa générosité, ce que Jésus soulignait, c'était que même les plus pauvres étaient capables de donner. Alors pour cette veuve, ça signifiait beaucoup. 2 pièces de bronze, c'était pas grand-chose. Et pour elle, c'était presque tout ce qu'elle avait. C'était sa subsistance même. Mais pour nous, Québécois, Français, Occidentaux du 21e siècle, toucher à notre superflu, ça serait toucher à beaucoup plus que cette veuve, n'est-ce pas? Alors, je crois qu'il y a ici, implicitement, et sans vouloir faire dire au texte plus que ce qu'il ne dit, une pensée sur une forme d'erreur que serait un système qu'on pourrait qualifier de redistributif. Si je voulais être méchant, je le qualifierais de socialiste, n'est-ce pas? L'idée de ce système-là, c'est que seuls les riches s'engagent pour les autres. Autrement dit, on regarderait le niveau de salaire des gens de l'Église, là, et on dirait bah, c'est seulement ceux qui sont au-dessus d'un tel niveau de salaire qui devraient financer pour l'Église. Mais à vrai dire, dans l'Église, chacun s'engage parce que l'argent donné n'est pas premièrement pour les autres, mais il est premièrement pour Dieu et pour la communauté. Alors évidemment qu'il y a certains principes de proportionnalité, évidemment qu'il y a certains principes de cohérence qui guident la collecte, mais le principe de base, c'est que chacun, sauf s'il est dans le dénuement absolu bien sûr, devrait s'engager dans la collecte de l'Église. Il n'y a pas de situation privilégiée quant aux dons qui sont déposés dans l'Église. Et à vrai dire, je tiens à vous le dire franchement, même le pasteur, même les anciens doivent donner. Ils ont le même commandement qui s'applique à eux, et je crois que c'est important de se souvenir que nous sommes tous concernés par cette collecte, quel que soit notre statut, quelle que soit notre situation. Bien sûr, Dieu connaît nos besoins, mais le principe de base, c'est que la collecte est un commandement. Une fois que cette chose est dite, le deuxième élément qui ressort de ce texte, c'est que la collecte obéit à des principes. La collecte obéit à des principes. Alors, j'aurais pu en citer plusieurs, et j'aurais aimé, vous voyez, croiser plusieurs textes pour qu'on puisse lister les 10 ou 15 principes qui ressortent généralement des textes sur la collecte qu'on peut retrouver ici et là. Vous pourriez regarder sur certains sites web, j'ai trouvé des trucs vraiment pertinents, notamment sur toutpoursagloire.com, si cela vous intéresse. Mais dans le texte qu'on vient de lire aujourd'hui, il y a quelques principes intéressants à soulever. Par exemple, le principe de régularité. Ça m'a beaucoup parlé, parce que je n'avais pas forcément fait le lien immédiatement à titre personnel. Paul ici, il parle d'une prescription pour une collecte précise. Il en supervise l'organisation, et même s'il donne peu de détails, c'est probablement parce qu'il avait déjà donné des consignes lorsqu'il était sur place, eh bien on voit qu'il s'agit d'une collecte spéciale, très probablement pour des pauvres qui étaient situés dans l'église de Jérusalem, qui apparemment subissaient une pression, une persécution pire que les autres. Mais même pour cette collecte spéciale, il suggère un principe de régularité hebdomadaire. Autrement dit, que chacun d'entre vous mette à part le début de la semaine l'argent qu'il veut consacrer à la collecte. Alors là encore, la tentation est grande d'en tirer un grand principe, de vouloir faire dire au texte des choses très précises, mais le plus probable, c'est que c'était le jour où les chrétiens se réunissaient. D'ailleurs, c'est un excellent argument pour la transition du samedi au dimanche, vous voyez, dans l'histoire de l'Église, qui était une transition qui s'est faite très rapidement. Mais ça relève probablement que les peuples du 1er siècle après Jésus-Christ, eh bien, ils vivaient au jour le jour. La plupart gagnaient leur argent la journée et dans une moindre mesure, peut-être à la semaine. Mais le principe, c'est qu'ils étaient appelés à faire preuve de régularité. Alors, on n'a pas forcément à transposer ce principe dans notre manière de donner, surtout d'ailleurs qu'on n'a pas tous la même régularité de rémunération. Certains sont peut-être payés à la semaine, d'autres sont peut-être payés au mois. Mais le principe, je crois, qui mérite d'être soulevé ici, c'est que régularité rime avec stabilité. Plus nous sommes réguliers individuellement dans notre manière de donner à l'Église, plus l'Église sait à quoi s'attendre et plus elle peut anticiper les différents projets à mettre en œuvre. J'ai visité pas mal d'églises dans ma vie. J'ai vu certaines églises qui faisaient des choses très intéressantes de manière pratique. Ils ont un budget, ils ont réussi à mettre leur budget à la semaine et chaque semaine, lors des annonces, ils sont capables de vous dire à la semaine précédente où est-ce qu'on en est par rapport au budget. Alors ça a l'air comme ça d'être un exercice comptable fastidieux, mais en fait c'est très utile parce qu'on voit quand on a mis dans son cœur et on a eu le désir de mettre une somme à part pour l'Église, ben on voit où l'Église elle en est et on voit exactement ce que on peut être appelé à donner. Donc ce principe de régularité, il est pertinent et je vous le disais, ça nous aide aussi pour voir comment l'Église peut s'organiser. Il y a aussi dans la même veine un temps qui est approprié pour cette collecte. Ce temps approprié, c'est le climat d'adoration. Et là, j'aimerais m'arrêter un instant là-dessus. De plus en plus, on réduit la collecte, notamment chez nous, où nous ne faisons pas passer d'offrande, et je pense que c'est une bonne chose, c'est un bon principe, mais on réduit la collecte à un morceau de papier qu'on met dans l'enveloppe. Et on pourrait même aller plus loin, on pourrait même faire un formulaire de don en ligne, vous voyez, où quelqu'un pourrait vouloir donner à l'Église et cliquer sur un lien, utiliser sa carte de crédit, payer directement la collecte à l'Église. Et s'il a du cashback sur sa carte de crédit, il pourra même avoir des pourcentages de retour sur ce qu'il aura donné à l'Église. On pourrait très bien faire cela. Mais quand Paul leur dit de mettre à part une somme le premier jour de la semaine, il leur demande de faire cela dans le cadre du rassemblement complet de l'Église. Et si j'arrive à vous dire cela, c'est tout simplement parce qu'on voit dans les chapitres 11 à 14 de l'Épître aux Corinthiens s'il y avait des rassemblements dans les maisons, apparemment, il y avait un moment où ils se rassemblaient tous ensemble et apparemment c'était le moment où ils prenaient la scène ensemble. Et ce que Paul demande, c'est que cette rencontre, ce moment particulier où l'Église est rassemblée ensemble, eh bien, ça soit le moment où également la collecte puisse être organisée et avoir lieu. Alors là encore, l'idée, c'est probablement qu'il y avait une problématique pratique derrière. C'était le moment où tout le monde se rassemblait, c'était peut-être beaucoup plus simple d'organiser la collecte ainsi, mais il y a peut-être, et c'est mon avis personnel, plus que cela ici. Apparemment, la collecte faisait clairement partie d'un moment et du temps d'adoration, de sorte que même donner de ce que nous avons, donner de nos possessions, l'offrir au Seigneur, le mettre dans la communauté, le mettre au pied des apôtres pour reprendre ce que faisaient les premiers chrétiens dans l'Église primitive, fait partie intégrante de la dimension du temps d'adoration. Et notre pratique liturgique ici reflète un peu cette idée. Si vous regardez bien, nous excluons les annonces du temps d'adoration. On attend que le culte soit fini pour vous donner les nouvelles, pour que chacun puisse partager certains éléments sur lesquels on aurait peut-être des sujets plus personnels à avancer. Mais nous conservons le temps de collecte dans le temps d'adoration. Je vous l'ai dit, on ne fait pas passer d'offrande, mais on annonce quand même, on prie pour l'offrande, parce que cela fait bel et bien partie de ce temps d'adoration, ça fait partie intégrante du culte. La raison est tout simplement que l'offrande n'est ni plus ni moins qu'un acte d'alliance, ou plutôt un acte d'allégeance à Dieu dans le cadre de l'alliance. Nous montrons notre adhésion à la communauté de l'Église, nous montrons notre adhésion à Christ qui a instauré, fondé l'Église, qui en est la pierre angulaire, nous le montrons en donnant de nos possessions à son œuvre pour l'extension du royaume. Et je crois qu'il faut vraiment comprendre que la collecte et l'offrande, c'est un acte qui accompagne la membriété. Lorsque nous faisons le vœu de soutenir l'Église au meilleur de nos capacités, c'est ce que nous faisons lorsque nous remplissons ce vœu que nous disons à haute voix, en quelque sorte, que nous promettons de servir l'Église au meilleur de nos capacités, cela inclut également notre propension à donner à l'Église, notre volonté de la soutenir, y compris financièrement. L'idée, c'est que l'offrande elle-même constitue un acte formel d'adoration. Donner, c'est également adorer. Et il est tout à fait légitime que nous incluions à notre culte ce temps significatif qui est dédié aux offrandes. Et je crois que c'est ici la raison qui justifie le fait que nous ne fassions pas passer de corbeille. Notre idée, c'est que l'offrande, ce n'est pas collecter de l'argent pour collecter de l'argent. Notre idée n'est pas de collecter de l'argent des gens qui nous visitent, par exemple. On n'empêche pas de le faire, mais notre but, c'est pas de leur dire « Venez, vous avez écouté, payez pour ce que vous avez écouté ». Ça n'a jamais été prévu comme ça, l'offrande. Nous voyons l'offrande comme un acte délibéré d'allégeance à Dieu dans le cadre de l'alliance que nous avons, non seulement avec le Seigneur, cette nouvelle alliance, mais également cette alliance de membres que nous avons formée ensemble pour que cette Église ici présente puisse participer à l'avancement du royaume par la générosité et l'engagement de chacun des membres qui y prennent part. Nous ne faisons pas de passer de corbeille d'offrande parce que nous voulons que l'offrande soit proactive. Nous ne voulons pas être en scandale à des visiteurs qui ne comprendraient pas pourquoi cette offrande. Je vais vous dire une petite expérience personnelle de gens qui ont encore un arrière-plan catholique. Chaque fois qu'il y a des décès, ce qui revient presque toujours lors d'un enterrement catholique, c'est des gens qui râlent parce que le prêtre a demandé de l'argent pour pouvoir assurer l'enterrement, vous voyez ? Le rapport des gens à la religion, c'est que c'est une machine à argent. Autrement dit, une manière de soutirer l'argent des gens. C'est souvent en francophonie comme cela que c'est perçu. Et nous ne voulons pas soutirer l'argent des gens. Nous voulons l'âme des gens, qu'elle soit donnée au Seigneur. Nous voulons les voir se tourner vers Dieu. Nous voulons voir le royaume de Dieu et ses frontières s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Et par ce moyen-là, nous voulons donner de nous-mêmes, donner de notre subsistance, si nécessaire même, pour voir cette chose-là arriver. C'est simplement en termes d'acte d'allégeance que nous voyons donc l'offrande. Autre principe également qui semble être sous-jacent ici, dans ces quatre versets, c'est ce qu'on pourrait appeler un principe d'égalité. Alors comprenez bien, quand Paul utilise ce langage, cette règle d'égalité, il l'utilise dans 2 Corinthiens 8, il n'entend pas par là que tout le monde doit donner pareil. C'est pas uniformité, mais plutôt un principe sur lequel nos dons devraient être calculés. Et à vrai dire, quand on en vient à combien on doit donner lorsqu'on est chrétien, Souvent, la grande question que beaucoup se posent, c'est le montant précis et de savoir si notamment on doit donner 10% ou pas de ses revenus, n'est-ce pas? Est-ce que je dois donner la dîme à l'église, pasteur, ou pas? Ça, c'est une question que j'ai eue fréquemment depuis que j'exerce des responsabilités dans des églises évangéliques. Alors la dîme, c'est un impôt controversé dans les églises évangéliques, avec raison, puisque certains en abusent. Vous avez des églises qui sont spécialisées dans la collecte de la dîme, voire plus si tu veux une bénédiction spéciale. Je connais une église à Paris où ils inscrivent le nom des donateurs s'ils donnent plus que 1000 euros lors du culte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc vous avez des offrandes spéciales, tu as ton nom qui est mentionné sur un écran, et si tu veux faire une semence de foi, donc c'est complètement hérétique comme enseignement, mais si tu veux faire une semence de foi, tu donnes une somme plus grosse encore, et là tu vas venir devant et le pasteur va t'imposer les mains, et il va prier pour toi, et alors à ce moment-là, tu pourras avoir ta semence de foi qui sera récompensée par la prière du pasteur, et bien sûr la prière du pasteur sera récompensée par l'argent que tu auras donné à l'église, n'est-ce pas ? On se comprend. Alors, avec raison, cette pratique de la dîme est profondément controversée à cause des abus. Et des abus, il y en a plein. À vrai dire, dans certains cercles, notamment des cercles charismatiques, malheureusement, vous avez des gens qui, dès qu'ils deviennent connus, dès qu'ils ont un tout petit peu d'aura, dès qu'ils se retrouvent sur les réseaux sociaux, allez, hop, ils vous créent un budget venu d'ailleurs et ils vous demandent de contribuer par la collecte. Un jeune qui fait de l'évangélisation de rue se retrouve avec, je sais pas, 150 000 followers sur Instagram. Quelques jours après, je le vois qui fait une collecte de 17 500 euros pour soi-disant payer 4 plein temps à son service. Faites le calcul, 4 plein temps, c'est pas 17 500 euros par mois. Vous me donnez 17 500 euros par mois, je vous fais vivre 5 églises, moi. Mais c'est incroyable comment certains abusent de la générosité des croyants et de ce qui devrait être un acte d'allégeance vécu dans l'église locale, vous voyez ? Qui plus est, la dîme, c'était un impôt de 10% des récoltes et du bétail que les Israélites devaient aux Lévites. Alors je dis 10%, mais ce n'est pas vraiment 10%, c'était un impôt qui était là pour assurer la subsistance des Lévites. Vous vous souvenez que les Lévites étaient dédiés au sacerdoce, ils avaient des villes, ils n'avaient pas de territoire, ils ne pratiquaient pas l'agriculture comme le faisaient les autres 10 tribus d'Israël, et elle avait un sens, cette collecte, elle avait un sens rituel. Tout comme le temple, le tabernacle et le pays promis étaient des lieux consacrés, eh bien cette mise à part de la récolte symbolisait la consécration. Relisez Lévitique 27, notamment le verset 30, vous verrez que la dîme était vue comme un impôt rituel, un impôt sacré, et à vrai dire pas vraiment un impôt, plutôt une contribution au culte. D'ailleurs, la dîme n'est pas un principe strictement israélite. On le retrouve par exemple dans Genèse 14, et on voit que Abraham va payer la dîme de tout à Melchisédek, et de là vous voyez que la dîme est clairement un acte d'allégeance et de reconnaissance en Genèse 14. Il faut tout de même noter que concernant les récoltes et le bétail, la dîme représentait plus que 10% des revenus. Jacques Blandonnier, par exemple, estime que les dons moyens d'un Israélite étaient l'équivalent de 23% de leurs revenus. Je ne sais pas si les Israélites s'étaient coordonnés avec les taxes françaises, mais c'est la moyenne des pourcentages qui est retenue sur votre salaire quand vous avez travaillé en France. Bref, ceci était une parenthèse, mais d'emblée, se servir de la dîme pour justifier l'idée que les chrétiens devraient verser 10% de leurs revenus à l'Église n'a absolument aucun sens, ne serait-ce que par la dîme elle-même. Ensuite, il y a la question de cette transposition de la dîme de l'Ancien au Nouveau Testament. Le Nouveau Testament aborde la dîme plutôt comme un impôt de l'Ancienne Alliance et à aucun moment vous ne voyez la dîme qui se retrouve associée au précepte de générosité que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, d'ailleurs qu'on retrouve un peu partout dans les Épîtres. Et à vrai dire, d'un point de vue pratique, de vous à moi, celui qui gagne beaucoup d'argent, il peut tout à fait donner 10% de son salaire, voire plus. Tandis que celui qui ne gagne pas grand-chose, bah donner 10% de son salaire, c'est un peu compliqué, vous voyez ? Et c'est a priori ce que Paul souligne lui aussi dans un autre contexte, dans 2 Corinthiens 8, il dit « Il ne s'agit pas pour vous de vous exposer à la détresse pour le soulagement des autres. » Là encore, c'était une collecte spéciale, une collecte pour subvenir à des pauvres. Mais il ne s'agit pas pour vous de vous exposer à la détresse, mais de suivre une règle d'égalité. Et écoutez bien ce qu'il entend par là. Dans la circonstance présente, votre abondance suppléera à ce qui leur manque, pour que leur abondance aussi ainsi supplée à ce qui vous manque. Pour que, pardon, je m'excuse. je vais relire. Dans les circonstances présentes, votre abondance suppléera à ce qui leur manque pour que leur abondance aussi supplée à ce qui vous manque, de sorte qu'il y aura égalité, ainsi qu'il est écrit, celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, celui qui avait peu ne manquait de rien. Il leur dit, donnez de votre superflu financier. Eux, leur superflu spirituel, l'enseignement qu'ils sont capables de vous donner, la capacité qu'ils ont à vous soutenir d'une autre manière, leur prière à votre égard sera elle aussi un moyen de suppléer à ce qui vous manque. Il est probablement un peu ironique ici. Ils savaient qu'à Corinthe, ça n'allait pas du tout. Il leur dit, voilà, eux aussi, ils pourront suppléer à ce qui vous manque. Ici encore, cette collecte, elle est en faveur de pauvres. Elle n'est pas en faveur d'une offrande d'église, mais cette règle d'égalité est un principe qui est largement applicable dans tous les types d'offrandes et collectes. L'idée n'est pas de vous dépouiller ou de dépouiller votre famille, mais plutôt de participer avec joie dans cette possibilité que le Seigneur vous donne de participer à l'expansion de son royaume au travers du soutien de l'église locale. Nous n'avons pas les mêmes ressources, nous n'avons pas les mêmes situations, mais Dieu nous appelle à nous engager dans son royaume, y compris de manière financière, selon ce que nos situations permettent. Donc, un principe qui relève à la fois cette notion complètement d'égalité, un principe qui nous rappelle également que la régularité est utile et que la collecte doit être connectée au climat d'adoration, au culte, comme nous le faisons à juste titre dans nos églises. Troisième élément que je veux relever sur ce texte, et qui là encore nous permettra de réfléchir un peu plus à l'utilisation qu'on fait des dons que nous avons dans cette église. Pardonnez-moi. La collecte mérite un traitement important. La collecte mérite un traitement important. Tout d'abord, c'est l'argent de l'Église. L'argent que vous mettez dans la boîte d'offrande n'est pas à proprement parler un investissement de votre part. Si vous voulez investir de l'argent, mettez-le dans des REER, mettez-le sur des comptes épargne, investissez dans une société, mais l'argent que vous mettez dans la collecte ne vous ouvre aucun droit quant à la gestion de l'Église. Les gens les plus riches n'ont pas plus de droits que ceux qui sont pauvres. J'ai vécu personnellement une situation dans laquelle nous étions particulièrement dépendants d'une famille, dans l'église que j'ai fréquentée il y a quelques années de cela. Et la famille en question avait des vues beaucoup plus ouvertes que celles des anciens de l'église. La situation était très compliquée. Cette famille contribuait à plus de la moitié du budget de l'église et pressurait constamment les anciens en menaçant d'enlever les dons. Et certains des anciens de l'Église étaient particulièrement préoccupés par cela et souvent essayaient de concilier les arguments, et c'était des sujets qui portaient sur la prédication de la femme ou des choses comme ça. Vous voyez, c'était vraiment des sujets très actuels. Cette situation-là m'a amené à beaucoup réfléchir et je tiens à vous le dire, c'est clairement l'argent de l'Église et pas votre argent. Ce que vous mettez dans la boîte d'offrande ne vous ouvre aucun droit quant à la gestion de l'Église. Vous faites simplement un acte d'allégeance à Dieu. Vous n'êtes pas en train d'acheter des actions pour pouvoir contrôler l'Église à votre guise selon que vous y auriez mis plus d'argent. À vrai dire, considérez peut-être que si Dieu vous a donné de l'argent et que vous mettez un peu plus que les autres, c'est peut-être simplement que ceux qui ont moins d'argent, il les a destinés à avoir un avis plus éclairé, un don particulier sur certaines choses. Considérez peut-être simplement que cet argent est en bénédiction aux autres et non pas un levier pour éventuellement assouvir une volonté de contrôle de votre part. On a tous à lutter avec des péchés quels qu'ils soient et je ne voudrais pas qu'on se trompe. Avec beaucoup d'argent vient beaucoup de tentations et une volonté de responsabilité accrue souvent. Les gens estiment que lorsqu'ils ont reçu de l'argent, ils se sentent avec plus de pouvoir que les autres. Tout le monde n'est pas comme ça, mais ça peut être un piège. Et nous avons une ribambelle d'avertissements quant à l'envie d'être riche ou à l'envie d'avoir de l'argent et à toutes les tentations qui sont associées avec les dangers de l'enrichissement. Ce n'est pas un mal d'être riche, mais avec la richesse vient souvent bien des difficultés. L'argent que vous mettez dans la collecte, vous l'abandonnez à l'Église et vous vous soumettez à la décision de la communauté quant à son usage. Je répète, vous vous soumettez à la décision de la communauté quant à son usage. La communauté vote le budget, a un droit de regard sur le budget. L'argent ne va pas dans ma poche, ne va pas dans la poche de Christian. C'est important de le souligner, hein. Je tiens vraiment à le souligner. Une personne était venue me voir il y a quelques mois de cela, m'avait dit « Mais du coup, on peut vous donner les dons directement à vous ?» Je lui dis « Non ». Il m'a dit « Bah, comment vous faites pour manger à la fin du mois ?» Je lui dis « Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas à la fin du culte, j'ouvre la boîte et je mets l'argent dans ma poche. Ça ne marche pas comme ça. Vous ne faites pas vos chèques à l'ordre de Guillaume Bourin. Je vous demande de ne jamais faire de chèques à l'ordre de Guillaume Bourin, sauf si vous m'avez acheté un truc sur Kijiji, on s'entend. Mais vous comprenez bien l'idée derrière, c'est que cet argent, il va être géré par la communauté, inscrit dans un budget. Et sur ce budget, non seulement vous avez un droit de regard, mais vous avez aussi un droit de vote. » Et c'est vous qui venez valider même le niveau de dépense sur lequel il faut demander un vote de l'Église pour que ça soit autorisé. Les anciens n'ont pas la main, les diacres n'ont pas la main sur les finances. Et à vrai dire, je vais en parler dans quelques instants, les pasteurs ne devraient jamais avoir la main sur les finances. Jamais. Ok ? Ça, c'est un principe qui devrait constamment être souligné. Ce ne sont pas les anciens qui décident de la manière dont l'argent est utilisé. En tout cas, ils donnent une direction, une vision qui devrait être entérinée par la communauté. L'Église a un droit de regard, elle vote le budget. C'est l'argent de l'Église, ce n'est pas le nôtre. Vous le donnez, vous l'abandonnez à la communauté. Cela ne vous ouvre aucun droit sur la ligne doctrinale de l'Église, par exemple. Donc c'est l'argent de l'Église, c'est l'argent de la communauté, mais c'est également l'argent du Seigneur. Non seulement la collecte, c'est l'argent de la communauté, et il n'est plus le nôtre individuellement, mais c'est aussi et avant tout l'argent du Seigneur. Relisez Acte 5 chez vous, regardez Ananias et Saphira. Je veux dire, Ananias et Saphira avaient un champ. Et à un moment où l'Église avait décidé que son mode d'organisation serait la communauté de biens, ils mettaient tous leurs biens en commun. Apparemment, ils l'ont fait spontanément et d'un commun accord. Si on lit le livre des Actes et le chapitre 5, c'est le sentiment que l'on a. Mais à aucun moment, ils n'ont forcé qui que ce soit à donner leur argent. Or, Ananias et Saphira, ils avaient un champ. Ils ont décidé de vendre ce champ pour faire comme tout le monde. Et alors qu'ils ont vendu ce champ, ils en ont retenu une partie et ils ont mis le reste dans la collecte, en faisant comme si ce champ avait été vendu le prix qu'ils ont mis dans la collecte. Alors ils ont menti. Ils ont retenu le prix du champ. Et Pierre leur dit « Mais attendez, ce champ, il était à vous. Vous n'étiez pas obligé de le donner. C'est vous qui spontanément venez ici. Mais regardez ce que vous avez fait. Vous avez menti au Seigneur. » Menti au Saint-Esprit, dit-il. Je veux dire, l'histoire d'Ananias et Saphira nous montre que mentir ou mal agir, y compris dans le cadre de la collecte communautaire, c'est mentir ou mal agir vis-à-vis de Dieu lui-même. Nous devons, frères et sœurs, agir avec sérieux dans la gestion de la collecte parce que c'est l'argent de l'Église, parce que c'est l'argent du Seigneur et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec cette collecte-là. C'est exactement ce que reflète le traitement de Paul ici alors qu'il met en garde les Corinthiens. Il y a ici une application directe. Et l'application directe qu'on peut retenir de ce texte, c'est l'importance des diacres. Ok, dans 1 Corinthiens 16, les personnes qui étaient envoyées pour la collecte, les apostolos, ils sont mentionnés comme tels, des apôtres, mais dans le sens d'envoyés. Mais souvent, les gens qui vont gérer l'aspect matériel de l'Église, notamment dans Actes 6, mais aussi dans les épîtres pastorales, sont appelés les diakonos, c'est-à-dire des diacres, des personnes qui sont mis à part pour le service particulier de l'Église. Or, des diacres, nous n'en avons pas. Nous avons un ancien qui fait fonction de diacre aujourd'hui, qui s'appelle Christian, que vous avez sous vos yeux, qui est en train de sourire. Il est content qu'on le mentionne, regardez-le, c'est lui, tournez-vous. Voilà. Christian fait aujourd'hui un travail de diacre, et il le fait avec zèle, mais ce faisant, il ne peut pas se former efficacement à l'appel qui est le sien d'être ancien dans cette église, parce que c'est un travail qui est lourd, parce que ça demande énormément de responsabilités, parce que c'est même, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre d'une église. Ok, j'étais à Heritage la semaine dernière. C'est une église que j'apprécie particulièrement, ils sont environ 300, ils existent depuis les années 80. C'est une église qui avait été fondée avec des étudiants, à la base quelques étudiants qui se réunissaient dans la fac où j'ai étudié, à Southwestern. Et Larry Vincent, le pasteur là-bas, me dit toujours, chaque fois qu'on en parle, que les diacres sont plus importants que les anciens. Alors souvent j'ai pris ça un peu avec sourire, en me disant, bon il exagère un petit peu volontairement, mais plus j'avance, plus je comprends ce qu'il veut dire par là. on est souvent très prompt à voir l'ancien comme celui qui va diriger l'église, et quand on n'a pas beaucoup de monde, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de mettre un maximum de gens à faire fonction d'ancien, même quand ils ne correspondent pas forcément aux critères, dans le but justement d'avoir quelques dirigeants. Mais ce que dit Larry, c'est qu'on devrait plutôt se consacrer à ce que l'église tourne bien de manière fonctionnelle, afin de pouvoir reconnaître ceux qui ont réellement un don d'enseignement ou ceux qui doivent être mis à part pour cela, pour pouvoir les désigner. Et derrière ce principe-là, il y a aussi une volonté d'arrêter de voir une hiérarchie entre diacres et anciens. Souvent, on met les anciens au-dessus des diacres. Vous vous souvenez, on a déjà parlé de ça dans notre série sur l'ecclésiologie qu'on avait eue quand on était encore au Centre Saint-Pierre. Les anciens ne sont pas supérieurs aux diacres hiérarchiquement. Ça, c'est une erreur classique de la vision un peu catholique, ou plutôt un peu sacramentelle, un peu ignatienne, j'ai envie de dire, de l'Église. En réalité, les diacres et les anciens ont des fonctions différentes et complémentaires. Et à vrai dire, les diacres sont des observateurs privilégiés pour voir comment les anciens se comportent dans leur manière de se focaliser sur les Écritures. À Heritage, ils ont 300 personnes au culte. Ils ont 3 anciens, c'est pas beaucoup. Ils aimeraient en avoir un quatrième, voire un cinquième. Mais ils ont 8 diacres. Et parmi les diacres, certains sont des gens formés en théologie, qui ont fait un MDiv, etc., etc., etc. Pour vous montrer à quel point ils soulignent l'importance du rôle des diacres. Et à vrai dire, en ce qui concerne la collecte, le point et le principe qui se voit ici dans ces 4 versets de chapitre 16, mais pas seulement dans 2 Corinthiens 8 et ailleurs, c'est que ceux qui ont la charge de la collecte doivent faire l'objet d'un consensus. Ils doivent être approuvés par le plus grand nombre, voire par tous. C'est extrêmement important. On demande d'eux à ce qu'ils aient une certaine probité, mais pas seulement, on espère qu'ils ont une certaine piété pour pouvoir gérer cette collecte. Pourquoi ? Parce que c'est la matérialisation concrète de notre adoration, c'est la matérialisation concrète de notre volonté d'être pieux en mettant à part l'argent que le Seigneur nous a donné. Et en 2020, chers amis, nous allons avoir un certain nombre de challenges devant nous, mais parmi les différents challenges que nous aurons, il y aura le fait de choisir des diacres, des personnes pieuses, des personnes probes, des personnes qui pourront, entre autres, gérer cette collecte. Pas seulement, mais en partie. À combien plus forte raison devons-nous considérer cette collecte dans ce temps de transition que nous vivons comme quelque chose d'important, et combien nous devons la traiter avec sérieux? C'est bel et bien l'argent de l'Église. C'est bel et bien l'argent du Seigneur, et je crois que ça ouvre certains objectifs pour l'année prochaine en matière de diaconat. Avec ces quelques considérations qui ne sont pas exhaustives, qui ne font que refléter certains principes du texte, j'aimerais vous envoyer dans la semaine qui va venir un certain nombre d'articles qui pourront vous aider à prolonger la réflexion, surtout si vous questionnez peut-être votre manière de donner, non pas en termes de montant ou de quantité, encore une fois, ça se passe vraiment bien à la Trinité, mais peut-être dans votre manière peut-être de gérer vos finances d'une manière qui reflétera davantage votre piété et votre envie de glorifier Dieu. Vous recevrez ça, mais je crois que simplement, si je peux donner un mot et une conclusion finale à ces quelques principes que je viens de mentionner, j'aimerais simplement souligner 2 aspects du but de la collecte. Tout d'abord, le premier aspect, c'est de glorifier Dieu. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur, nous dit la parole de Dieu. Ils sont selon la souveraineté de Dieu. Tout ce que nous possédons vient de Dieu. C'est lui qui nous permet de vivre et ou de survivre. Alors vous vous dites peut-être non, ce sont mes études qui m'ont permis d'avoir une bonne situation, un bon niveau de salaire. Non, ce sont mon travail acharné ou mes économies qui m'ont permis d'être plus à l'aise financièrement. Peut-être, mais même ça dépendait de la souveraineté de Dieu. Qu'est-ce qui t'a évité un cataclysme financier, une banqueroute ou je ne sais quoi qui aurait pu te mettre en difficulté? Et c'est valable aussi pour nous si parfois nous nous angoissons au sujet des finances. Et peut-être vous avez des raisons de s'angoisser au sujet de nos finances. Mais là encore, le fait de se souvenir que tout dépend de la souveraineté de Dieu, le fait que tout ce que nous possédons vient de Dieu, le fait que ce soit lui qui nous permette de vivre et de survivre, devrait nous rappeler que nous pouvons placer notre confiance en lui. Ne vous inquiétez pas du lendemain, disait Jésus, car le lendemain suffira à lui-même. Ce n'est pas une invitation à vivre au jour le jour. Simplement une invitation à faire confiance en Dieu, y compris dans les finances que nous recevons. Et nos offrandes consistent à partager pour l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, une partie de ce qu'il nous a donné. C'est pas juste donner des choses que vous avez créées, c'est redistribuer ce que vous avez reçu, partiellement, pour montrer votre allégeance, pour montrer votre reconnaissance, pour témoigner que la souveraineté de Dieu s'exerce aussi dans la manière dont vous avez prospéré. Comprenez bien ce que je mets derrière ce verbe-là. Je veux dire, il n'a pas besoin de nous pour ce faire. Il n'a pas besoin de l'Église réformée baptiste de la Trinité au centre de Montréal pour faire son œuvre. Il n'a pas besoin de toi, de moi, de nous collectivement, mais dans sa grâce, il nous associe à son œuvre, à son plan, à son royaume dans différents aspects. Faire des disciples, partager l'Évangile, servir dans l'Église, mais aussi nous offrir nous-mêmes à mesure que nous offrons de nos finances. C'est une grâce de Dieu de nous associer de la sorte. C'est une grâce de Dieu de pouvoir participer à la collecte pour l'Église. Et à vrai dire, et c'est là ma deuxième application, donner n'est autre que la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Et je pourrais vous citer toutes sortes d'exemples pour justifier ce point, le fait que donner soit la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies, mais je crois que le passage de 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5, se suffira à lui-même et vous éclairera au travers des motivations des églises de Macédoine qui étaient passées par des moments particulièrement difficiles, de voir comment la collecte n'est autre que la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Regardez ce que dit ce passage, 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une joie débordante, une pauvreté profonde, dans un contexte de persécution, ont produit d'abondantes libéralités. Waouh ! Je fais une pause ici. Je me souviens d'un frère, Gerard Crispin, qui avait un ministère dans les prisons qu'il faisait en Angleterre. Un jour, il m'a dit « Je suis complètement frappé. Chaque fois que je vais présenter mon œuvre dans les églises, c'est toujours dans les églises prolétaires que je reçois le plus d'argent. » Waouh ! Eh bien, a priori, Paul faisait le même constat. Verset 3. « Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » Mais regardez, ce n'était pas juste participer à leur motivation. Ce qu'ils voulaient, c'était se donner eux-mêmes. Voilà ma question pour toi aujourd'hui, et pour nous. Comment te donneras-tu toi-même en fonction de ce que tu as reçu du Seigneur? Que ce soit dans la collecte, mais aussi dans ton engagement, dans ton allégeance à notre alliance d'Église et plus, de manière plus grande encore à la nouvelle alliance instaurée par Christ. Prions. Seigneur, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont nous gérons nos finances, sur la manière dont nous donnons à l'Église, et ce court texte ne reflète pas tout ce qui aurait pu être dit sur l'usage de nos finances, notre manière de donner à l'Église. Mais Seigneur, aide-nous simplement à nous souvenir l'importance dont devrait faire l'objet la collecte dans l'Église. Nous voudrions prier, Seigneur, afin de considérer cette réalité de manière très sérieuse. Et même si nous voulons vivre avec une joie profonde et aussi en voulant ne pas non plus nous prendre trop au sérieux, Seigneur, nous te demandons vraiment de nous aider à manifester cette vie de piété que tu as initiée en nous au travers Christ, non seulement de la manière dont nous allons vivre la sainteté de vie, mais aussi de la manière dont on va se donner nous-mêmes, y compris en donnant de nos finances, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as placés dans une région du monde où finalement on peut mieux s'en sortir qu'ailleurs, Seigneur. Nous ne mourrons pas de faim, nous pouvons avoir de l'argent qui rentre sur notre compte en banque, nous pouvons, Seigneur, parfois changer de travail, améliorer notre situation, nous pouvons avoir des voitures qui roulent, nous pouvons avoir, Seigneur, les transports en commun si nous n'avons pas de voiture. Nous sommes quand même privilégiés, Seigneur, nous te rendons grâce de cela. Mais nous prions que cette vie de richesse, même si elle nous paraît pas forcément riche, Seigneur, puisse nous aider simplement à considérer les besoins du royaume, non pas en termes de besoins par rapport à ce qui doit être fait, mais simplement, Seigneur, de voir notre besoin d'être associé au royaume. au travers de ce que nous redonnons à ton œuvre, Seigneur. Merci parce que c'est ton œuvre, ton Église, ton royaume, ton travail, et pas le nôtre, mais que dans ta grâce, tu nous associes, Seigneur. Et merci parce que tu nous offres la possibilité de manifester notre allégeance à l'Alliance, Seigneur, ou peut-être même de renouveler notre allégeance au travers de ce que nous donnons ou offrons, Seigneur. Et nous voulons te prier que tous les aspects de notre vie puissent être consacrés en 2020, alors que nous terminons cette année 2019. Non seulement nos vies tout entières, notre sanctification morale, Seigneur, mais également notre manière de nous donner de manière concrète et pratique à toi-même et à ton Église, Seigneur, alors que nous abordons cette nouvelle année. Bénis-nous ensemble, Seigneur mon Dieu. Donne-nous ta paix. Et Seigneur, conduis notre conscience vis-à-vis de ces questions parfois difficiles pour que nous puissions te glorifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen.